Honoré de Balzac, La cousine bête. Chapitre 1er. Vers le milieu du mois de juillet de l'année 1838, une de ces voitures nouvellement mises en circulation sur les places de Paris et nommées des Milords cheminait rue de l'Université, portant un gros homme de taille moyenne en uniforme de capitaine de la garde nationale. Dans le nombre de ces Parisiens accusés d'être si spirituels, il s'en trouve qui se croient infiniment mieux en uniforme que dans leurs habits ordinaires, et qui supposent chez les femmes des goûts assez dépravés pour imaginer qu'elles seront favorablement impressionnées à l'aspect d'un bonnet à poil et par le harnais militaire. La physionomie de ce capitaine appartenant à la 2e Légion respirait un contentement de lui-même qui faisait resplendir son teint rougeau et sa figure passablement joufflue. À cette auréole que la richesse acquise dans le commerce met au front des boutiquiers retirés, on devinait l'un des élus de Paris, au moins ancien adjoint de son arrondissement. Aussi croyait que le ruban de la Légion d'honneur ne manquait pas sur la poitrine, crânement bombé à la prussienne. Campé fièrement dans le coin du Milord, cet homme décoré laissait errer son regard sur les passants, qui souvent, à Paris, recueillent ainsi d'agréables sourires adressés à de beaux yeux absents. Le Milord arrêta dans la partie de la rue comprise entre la rue de Bellechasse et la rue de Bourgogne, à la porte d'une grande maison nouvellement bâtie sur une portion de la cour d'un vieil hôtel à jardin. On avait respecté l'hôtel, qui demeurait dans sa forme primitive, au fond de la cour, diminuée de moitié. À la manière seulement dont le capitaine accepta les services du cocher pour descendre du Milord, on eût reconnu le quinquagénaire. Il y a des gestes dont la franche lourdeur a toute l'indiscrétion d'un acte de naissance. Le capitaine remit son gant jaune à sa main droite et, sans rien demander au concierge, se dirigea vers le perron du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air qui disait « Elle est à moi ». Les portiers de Paris ont le coup d'œil savant. Ils n'arrêtent point les gens décorés, vêtus de bleu, à démarche pesante. Enfin, ils connaissent les riches. Ce rez-de-chaussée était occupé tout entier par M. le baron Hulot d'Hervy, commissaire ordonnateur sous la République, ancien intendant général d'armée et alors directeur d'une des plus importantes administrations du ministère de la Guerre, conseiller d'État, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc. Ce baron Hulot s'était nommé lui-même d'Hervy, lieu de sa naissance, pour se distinguer de son frère, le célèbre général Hulot, colonel des grenadiers de la garde impériale que l'empereur avait créé comte de Pforzheim après la campagne de 1809. Le frère aîné, le comte, chargé de prendre soin de son frère cadet, l'avait par prudence paternelle placé dans l'administration militaire, où, grâce à leur double service, le baron obtint et mérita la faveur de Napoléon. Dès 1809, le baron Hulot était intendant général des armées en Espagne. Après avoir sonné, le capitaine bourgeois fit de grands efforts pour remettre en place son habit, qui s'était autant retroussé par derrière que par devant, poussé par l'action d'un ventre piriforme. Admis aussitôt qu'un domestique en livrée l'eût aperçu, cet homme important et imposant suivit le domestique, qui dit en ouvrant la porte du salon « Monsieur Crevel !» En entendant ce nom, admirablement approprié à la tournure de celui qui le portait, une grande femme blonde, très bien conservée, parut avoir reçu comme une commotion électrique et se leva. « Hortense, mon ange, va dans le jardin avec ta cousine bête » dit-elle vivement à sa fille qui brodait à quelques pas d'elle. Après avoir gracieusement salué le capitaine, mademoiselle Hortense Hulot sortit par une porte-fenêtre en emmenant avec elle une vieille fille sèche qui paraissait plus âgée que la baronne, quoiqu'elle eût 5 ans de moins. « Il s'agit de ton mariage !» dit la cousine bête à l'oreille de sa petite cousine Hortense, sans paraître offensée de la façon dont la baronne s'y prenait pour les renvoyer en la comptant pour presque rien. La mise de cette cousine eut au besoin expliquer ce sans-gêne. Cette vieille fille portait une robe de mérinos, couleur raisin de Corinthe, dont la coupe et les liserés dataient de la Restauration, une collerette brodée qui pouvait valoir 3 francs, un chapeau de paille cousue à coque de satin bleu brodée de paille comme on en voit aux revendeuses de la halle. À l'aspect de souliers en peau de chèvre dont la façon annonçait un cordonnier du dernier ordre, un étranger aurait hésité à saluer la cousine bête comme une parente de la maison, car elle ressemblait tout à fait à une couturière en journée. Néanmoins, la vieille fille ne sortit pas sans faire un petit salut affectueux à Monsieur Crevel, auquel ce personnage répondit par un signe d'intelligence. « Vous viendrez demain, n'est-ce pas, Mademoiselle Fischer ? » dit-il. « Vous n'avez pas de monde ? » demanda la cousine bête. « Mes enfants et vous, voilà tout !» répliqua le visiteur. « Bien, répondit-elle, comptez alors sur moi. » « Me voici, madame, à vos ordres !» dit le capitaine de la milice bourgeoise en saluant de nouveau la baronne Hulot. Et il jeta sur madame Hulot un regard comme Tartuffe en jette à Elmire, quand un acteur de province croit nécessaire de marquer les intentions de ce rôle à Poitiers ou à Coutances. « Si vous voulez me suivre par ici, monsieur, nous serons beaucoup mieux que dans ce salon pour causer affaire, » dit madame Hulot en désignant une pièce voisine qui, dans l'ordonnance de l'appartement, formait un salon de jeu. Cette pièce n'était séparée que par une légère cloison du boudoir dont la croisée donnait sur le jardin, et madame Hulot laissa monsieur Crevel seul pendant un moment, car elle jugea nécessaire de fermer la croisée et la porte du boudoir afin que personne ne pût y venir écouter. Elle eut la même précaution de fermer également la porte-fenêtre du grand salon, en souriant à sa fille et à sa cousine, qu'elle vit établie dans un vieux kiosque au fond du jardin. Elle revint, en laissant ouverte la porte du salon de jeu, afin d'entendre ouvrir celle du grand salon si quelqu'un y entrait. En allant et venant ainsi, la baronne, n'étant observée par personne, laissait dire à sa physionomie toute sa pensée. Et qui l'aurait vue ? Eût été presque épouvantée de son agitation. Mais en revenant de la porte d'entrée du grand salon au salon de jeu, sa figure se voila sous cette réserve impénétrable que toutes les femmes, même les plus franches, semblent avoir à commandement. Pendant ces préparatifs, au moins singuliers, le garde national examinait l'ameublement du salon où il se trouvait. En voyant les rideaux de soie, anciennement rouges, déteints en violet par l'action du soleil et limés sur les plis par un long usage, un tapis d'où les couleurs avaient disparu, des meubles dédorés et dont la soie marbrée de taches était usée par bandes, des expressions de dédain, de contentement et d'espérance se succédèrent naïvement sur sa plate figure de commerçant parvenu. Il se regardait dans la glace, par-dessus une vieille pendule en pire, en se passant lui-même en revue, quand le froufrou de la robe de soie lui annonça la baronne. Et il se remit aussitôt en position. Après s'être jeté sur un petit canapé, qui certes avait été fort beau vers 1809, la baronne indiquant à Crevel un fauteuil dont les bras étaient terminés par des têtes de sphinx bronzées, dont la peinture s'en allait par écailles, en laissant voir le bois par places, lui fit signe de s'asseoir. « Ces précautions que vous prenez, madame, seraient d'un charmant augure pour un... »«
Un amant, » répliqua-t-elle en interrompant le garde national.
« Le mot est faible, » dit-il en plaçant sa main droite sur son cœur et en roulant des yeux qui font presque toujours rire une femme quand elle leur voit froidement une pareille expression. « Amant, amant, dites ensorcelée !»«
Écoutez, monsieur Crevel. » reprit la baronne, trop sérieuse pour pouvoir rire. « Vous avez 50 ans, c'est 10 ans de moins que monsieur Hulot, je le sais. Mais à mon âge, les folies d'une femme doivent être justifiées par la beauté, par la jeunesse, par la célébrité, par le mérite, par quelques-unes des splendeurs qui nous éblouissent, au point de nous faire tout oublier, même notre âge. Si vous avez 50 000 livres de rente, votre âge contrebalance bien votre fortune. » Ainsi, de tout ce qu'une femme exige, vous ne possédez rien.
« Et l'amour ?» dit le garde national en se levant et s'avançant. « Un amour qui... »«
Non, monsieur, de l'entêtement !» dit la baronne, en l'interrompant pour en finir avec cette ridiculité.
« Oui, de l'entêtement et de l'amour, reprit-il, mais aussi quelque chose de mieux, des droits. »«
Des droits !» s'écria madame Hulot, qui devint sublime de mépris, de défi, d'indignation.
« Mais, reprit-elle sur ce ton, nous ne finirons jamais, et je ne vous ai pas demandé de venir ici pour causer de ce qui vous en a fait bannir malgré l'alliance de nos deux familles. »
« Je l'ai cru. »«
Encore ? » reprit-elle. « Ne voyez-vous pas, monsieur, à la manière leste et dégagée dont je parle d'amant, d'amour, de tout ce qu'il y a de plus scabreux pour une femme, que je suis parfaitement sûre de rester vertueuse. Je ne crains rien, pas même d'être soupçonnée en m'enfermant avec vous. Est-ce là la conduite d'une femme faible ? Vous savez bien pourquoi je vous ai prié de venir. »
« Non, madame, » répliqua Crevel en prenant un air froid.
Il se pinça les lèvres et se remit en position. « Eh bien, je serai brève pour abréger notre mutuel supplice, » dit la baronne Hulot en regardant Crevel. Crevel fit un salut ironique dans lequel un homme du métier eut reconnu les grâces d'un ancien commis voyageur.
« Notre fils a épousé votre fille. »«
Et si c'était à refaire ?» dit Crevel.
« Ce mariage ne se ferait pas, » répondit vivement la baronne. « Je m'en doute. Néanmoins, vous n'avez pas à vous plaindre. Mon fils est non seulement un des premiers avocats de Paris, mais encore le voici député depuis un an, et son début à la Chambre est assez éclatant pour faire supposer qu'avant peu de temps, il sera ministre. Victorin a été nommé 2 fois rapporteur de lois importantes, et il pourrait déjà devenir, s'il le voulait, avocat général à la Cour de cassation. « Si donc vous me donnez à entendre que vous avez un gendre sans fortune ?»«
Un gendre que je suis obligé de soutenir, » reprit Crevel, « ce qui me semble pis, madame. »« Des 500 000 francs constitués en dot à ma fille, 200 ont passé, Dieu sait à quoi, à payer les dettes de monsieur votre fils, à meubler mirobolamment sa maison, une maison de 500 000 francs qui rapporte à peine 15 000 francs. Puisqu'il en occupe la plus belle partie, et sur laquelle il redoit 260 000 francs. Le produit couvre à peine les intérêts de la dette. Cette année, je donne à ma fille 20 000 francs pour qu'elle puisse nouer les 2 bouts, et mon gendre, qui gagnait 30 000 francs au palais, disait-on, va négliger le palais pour la chambre. »
Ceci, monsieur Crevel, est encore un hors-d'œuvre et nous éloigne du sujet. Mais pour en finir là-dessus, si mon fils devient ministre, il vous fait nommer officier de la Légion d'honneur et conseiller de préfecture à Paris. Pour un ancien parfumeur, vous n'aurez pas à vous plaindre.
Ah, nous y voici, madame. Je suis un épicier, un boutiquier, un ancien débitant de pâte d'amande, d'eau de Portugal, d'huile céphalique. On doit me trouver bien honoré d'avoir marié ma fille unique au fils de monsieur le baron Hulot d'Hervy. « Ma fille sera baronne. Ses régences, ses Louis XV, œil de bœuf, c'est très bien. J'aime Célestine comme on aime une fille unique. Je l'aime tant que pour ne lui donner ni frère ni sœur, j'ai accepté tous les inconvénients du veuvage à Paris et dans la force de l'âge, madame. Mais sachez bien que malgré cet amour insensé pour ma fille, je n'entamerai pas ma fortune pour votre fils, dont les dépenses ne me paraissent pas claires à moi, ancien négociant.
Monsieur, vous voyez en ce moment même au mystère du commerce, monsieur Popinot, un ancien droguiste de la rue des Lombards.
Mon ami, madame, dit le parfumeur retiré, car moi, Célestin Crevel, ancien premier commis du père César Birotteau, j'ai acheté le fonds du dit Birotteau, beau-père de Popinot, lequel Popinot était simple commis dans cet établissement. Et c'est lui qui me le rappelle, car il n'est pas fier, c'est une justice à lui rendre, avec les gens bien posés et qui possèdent 60 000 francs de rente.
Eh bien, monsieur, les idées que vous qualifiez par le mot « régence » ne sont donc plus de mise à une époque où l'on accepte les hommes pour leur valeur personnelle. Et c'est ce que vous avez fait en mariant votre fille à mon fils.
« Vous ne savez pas comment s'est conclu ce mariage, » s'écria Crevel. Ah, maudite vie de garçon! Sans mes déportements, ma Célestine serait aujourd'hui la vicomtesse Popinot.
Mais encore une fois, ne récriminons pas sur des faits accomplis, reprit énergiquement la baronne. Parlons du sujet de plainte que me donne votre étrange conduite. Ma fille Hortense a pu se marier. Le mariage dépendait entièrement de vous. J'ai cru à des sentiments généreux chez vous. J'ai pensé que vous auriez rendu justice à une femme qui n'a jamais eu dans le cœur d'autre image que celle de son mari, que vous auriez reconnu la nécessité pour elle de ne pas recevoir un homme capable de la compromettre, et que vous seriez empressé, par honneur pour la famille à laquelle vous êtes allié, de favoriser l'établissement d'Hortense avec monsieur le conseiller Lebas. Et vous, monsieur, vous avez fait manquer ce mariage.
Madame, répondit l'ancien parfumeur, j'ai agi en honnête homme. On est venu me demander si les 200 000 francs de dot attribués à mademoiselle Hortense seraient payés. J'ai répondu textuellement ceci. Je ne le garantirai pas. Mon gendre, à qui la famille Hulot a constitué cette somme en dot, avait des dettes, et je crois que si monsieur Hulot d'Hervy mourrait demain, sa veuve serait sans pain. Voilà, belle dame.
Auriez-vous tenu ce langage, monsieur ? Demanda madame Hulot en regardant fixement Crevel, si pour vous, j'eusse manqué à mes devoirs.
Je n'aurais pas eu le droit de le dire, chère Adeline, s'écria ce singulier amant en coupant la parole à la baronne, car vous trouveriez la dot dans mon portefeuille. Et, joignant la preuve à la parole, le gros Crevel mit un genou en terre et baisa la main de madame Hulot, en la voyant plonger par ses paroles dans une muette horreur qu'il prit pour de l'hésitation.
Achetez le bonheur de ma fille au prix de... Oh, levez-vous, monsieur, ou je sonne!
L'ancien parfumeur se releva très difficilement. Cette circonstance le rendit si furieux qu'il se remit en position. Presque tous les hommes affectionnent une posture par laquelle ils croient faire ressortir tous les avantages dont les a doués la nature. Cette attitude chez Crevel consistait à se croiser les bras à la Napoléon, en mettant sa tête de trois quarts et jetant son regard comme le peintre le lui faisait lancer dans son portrait, c'est-à-dire à l'horizon.
« Conservez, dit-il avec une fureur bien jouée, conservez sa foi à un liberté, à un mari, monsieur, qui en est digne !»
reprit madame Hulot en interrompant Crevel pour ne pas lui laisser prononcer un mot qu'elle ne voulait pas entendre.
« Tenez, madame, vous m'avez écrit de venir, vous voulez savoir les raisons de ma conduite, vous me poussez à bout avec vos airs d'impératrice, avec votre dédain et votre mépris, ne dirait-on pas que je suis un nègre ? Je vous le répète, croyez-moi, j'ai le droit de vous faire la cour, car... Mais non, je vous aime assez pour me taire.
Parlez, monsieur, j'ai dans quelques jours 48 ans. Je ne suis pas sottement prude, je puis tout écouter.
Voyons, me donnez-vous votre parole d'honnête femme, car vous êtes, malheureusement pour moi, une honnête femme, de ne jamais me nommer, de ne pas dire que je vous livre ce secret.
Si c'est la condition de la révélation, je jure de ne nommer personne, pas même à mon mari, la personne de qui j'aurais su les énormités que vous allez me confier.
Je le crois bien, car il ne s'agit que de vous et de lui.
Madame Hulot pâlit.
Ah, si vous aimez encore Hulot, vous allez souffrir. Voulez-vous que je me taise ?
Parlez, monsieur, car il s'agit, selon vous, de justifier à mes yeux les étranges déclarations que vous m'avez faites, et votre persistance à tourmenter une femme de mon âge, qui voudrait marier sa fille et puis mourir en paix.
Vous le voyez, vous êtes malheureuse.
Moi, monsieur ?
Oui, belle et noble créature, s'écria Crevel, tu n'as que trop souffert.
Monsieur, taisez-vous et sortez, ou parlez-moi convenablement.
Savez-vous, madame, comment le sieur Hulot et moi nous nous sommes connus ?
Chez nos maîtresses, madame.
Oh, monsieur !
Chez nos maîtresses, madame, répéta Crevel d'un ton mélodramatique et en rompant sa position pour faire un geste de la main droite.
Eh bien, après, monsieur, dit tranquillement la baronne, au grand ébahissement de Crevel. Les séducteurs à petits motifs ne comprennent jamais les grandes âmes.
Moi, veuf depuis 5 ans, reprit Crevel en parlant comme un homme qui va raconter une histoire, ne voulant pas me remarier, dans l'intérêt de ma fille que j'idolâtre, ne voulant pas non plus avoir d'acquaintance chez moi, quoique j'eusse une très jolie dame de comptoir, j'ai mis, comme on dit, dans ses meubles une petite ouvrière de 15 ans, d'une beauté miraculeuse, et de qui, je l'avoue, je devins amoureux à en perdre la tête. Aussi, madame, ai-je prié ma propre tante, que j'ai fait venir de mon pays, la sœur de ma mère, de vivre avec cette charmante créature et de la surveiller pour qu'elle restât aussi sage que possible dans cette situation, comment dire, illicite. La petite, dont la vocation pour la musique était visible, a eu des maîtres, elle a reçu de l'éducation, il fallait bien l'occuper. Et d'ailleurs, je voulais être à la fois son père, son bienfaiteur, et lâchons le mot, son amant, faire d'une pierre 2 coups, une bonne action et une bonne amie. J'ai été heureux 5 ans. La petite a l'une de ces voix qui sont la fortune d'un théâtre, et je ne peux la qualifier autrement qu'en disant que c'est Dupré en jupon. Elle m'a coûté 2 000 francs par an, uniquement pour lui donner son talent de cantatrice. Elle m'a rendu fou de la musique. J'ai eu pour elle et pour ma fille une loge aux Italiens. J'y allais alternativement un jour avec Célestine, un jour avec Josépha.
Comment, cette illustre cantatrice ?
Oui, madame, reprit Crevel avec orgueil. Cette fameuse Josépha me doit tout. Enfin, quand la petite eut 20 ans, en 1834, croyant l'avoir attachée à moi pour toujours, et devenue très faible avec elle, je voulus lui donner quelques distractions. Je lui laissai voir une jolie petite actrice, Jenny Cadine, dont la destinée avait quelque similitude avec la sienne. Cette actrice devait aussi tout à un protecteur qui l'avait élevée à la brochette. Ce protecteur était le baron Hulot.
« Je le sais, monsieur, » dit la baronne d'une voix calme et sans la moindre altération.
« Ah bah !» s'écria Crevel, de plus en plus ébahi. « Bien, mais savez-vous que votre monstre d'homme a protégé Jenny Cadine à l'âge de 13 ans ?»«
Eh bien, monsieur, après !» dit la baronne.
« Comme Jenny Cadine, » reprit l'ancien négociant, en avait 20, ainsi que Josépha. Lorsqu'elles se sont connues, le baron Hulot jouait le rôle de Louis XV vis-à-vis de Mademoiselle de Romans, dès 1826, et vous aviez alors 12 ans de moins.
Monsieur, j'ai eu des raisons pour laisser à monsieur Hulot sa liberté.
Ce mensonge-là, madame, suffira sans doute à effacer tous les péchés que vous avez commis, et vous ouvrira la porte du paradis. Répliqua Crevel d'un air fin qui fit rougir la baronne. « Dites cela, femme sublime et adorée, à d'autres, mais pas au père Crevel, qui, sachez-le bien, a trop souvent banqueté dans des parties carrées avec votre scélérat de mari pour ne pas savoir tout ce que vous valez. Il s'adressait parfois des reproches entre deux vins en me détaillant vos perfections. Oh, je vous connais bien, vous êtes un ange. Entre une jeune fille de 20 ans et vous, un libertin hésiterait. Moi, je n'hésite pas.
Monsieur !
Bien, je m'arrête. Mais apprenez, sainte et digne femme, que les maris, une fois gris, racontent bien des choses de leurs épouses chez leurs maîtresses qui en rient comme des crevés. Des larmes de pudeur qui roulèrent entre les beaux cils de Madame Hulot arrêtèrent net le garde national, et il en pensa plus à se remettre en position.
« Je reprends, » dit-il. « Nous nous sommes liés, le baron et moi, par nos coquines. Le baron, comme tous les gens vicieux, est très aimable et vraiment bon enfant. Oh, m'a-t-il plu, ce drôle-là ? Non, il avait des inventions. Enfin, laissons-là les souvenirs. Nous sommes devenus comme 2 frères. le scélérat, tout à fait régence, essaye bien de me dépraver, de me prêcher le saint-sionisme en fait de femme, de me donner des idées de grand seigneur, de juste au corps bleu. Mais voyez-vous, j'aimais ma petite à l'épouser si je n'avais pas craint d'avoir des enfants. Entre deux vieux papas, amis comme nous l'étions, comment voulez-vous que nous n'ayons pas pensé à marier nos enfants ? 3 mois après le mariage de son fils avec ma Célestine, Hulot, je ne sais pas comment je prononce son nom, l'infâme, car il nous a trompés tous les deux, madame. Eh bien, l'infâme m'a soufflé ma petite Josépha. Ce scélérat se savait supplanté par un jeune conseiller d'État et par un artiste, excusé du peu, dans le cœur de Jenny Cadine, dont les succès étaient de plus en plus esbrouffants, et il m'a pris ma pauvre petite maîtresse, un amour de femme. Mais vous l'avez vu assurément aux Italiens, où il l'a fait entrer par son crédit. Votre homme n'est pas aussi sage que moi, qui suis réglé comme un papier de musique. Il avait été déjà pas mal entamé par Jenny Cadine, qui lui coûtait bien près de 30 000 francs par an. Eh bien, sachez-le, il achève de se ruiner pour Josépha. Josépha, madame, est juive. Elle se nomme Mira. C'est l'anagramme de Hiram. Un chiffre israélite pour pouvoir la reconnaître. Car c'est une enfant abandonnée en Allemagne. Les recherches que j'ai faites prouvent qu'elle est la fille naturelle d'un riche banquier juif. Le théâtre, et surtout les instructions que Jenny Cadine, madame Schontz, Malaga, Carabine ont donné sur la manière de traiter les vieillards à cette petite, que je tenais dans une voie honnête et peu coûteuse, ont développé chez elle l'instinct des premiers Hébreux pour l'or et les bijoux, pour le veau d'or. La cantatrice célèbre, devenue âpre à la curée, veut être riche, très riche. Aussi ne dissipe-t-elle rien de ce qu'on dissipe pour elle. Elle s'est essayée sur le sieur Hulot, qu'elle a plumé net. Oh, plumé, ce qui s'appelle rasé. Ce malheureux, après avoir lutté contre un Keller et le marquis d'Esgrignon, fous tous deux de Josépha, sans compter les idolâtres inconnus, va se la voir enlever par ce duc si puissamment riche, qui protège les arts. Comment l'appelez-vous? Un nain? Ah, le duc d'Hérouville. Ce grand seigneur a la prétention d'avoir à lui seul Josépha. Tout le monde courtisanesque en parle, et le baron n'en sait rien, car il en est au 13e arrondissement, comme dans tous les autres. L'amant est, comme les maris, le dernier instruit. Comprenez-vous mes droits maintenant? Votre époux, belle dame, m'a privé de mon bonheur, de la seule joie que j'ai eue depuis mon veuvage. Oui, si je n'avais pas eu le malheur de rencontrer ce vieux Roquentin, je posséderais encore Josépha. Car moi, voyez-vous, je ne l'aurais jamais mise au théâtre. Elle serait restée obscure, sage et à moi. Oh, si vous l'aviez vue il y a 8 ans, mince et nerveuse, le teint doré d'une Andalouse, comme on dit, les cheveux noirs et luisants comme du satin, un œil à longs cils bruns qui jetait des éclairs. Une distinction de duchesse dans les gestes, la modestie de la pauvreté, de la grâce honnête, de la gentillesse comme une biche sauvage. Par la faute du sieur Hulot, ses charmes, cette pureté, tout est devenu piège à loup, chatière à pièces de 100 sous. La petite est la reine des impures, comme on dit. Enfin, elle blague aujourd'hui, elle qui ne connaissait rien, pas même ce mot-là. En ce moment, l'ancien parfumeur s'essuya les yeux où roulaient quelques larmes. La sincérité de cette douleur agit sur madame Hulot, qui sortit de la rêverie où elle était tombée. « Eh bien, madame, est-ce à 52 ans qu'on retrouve un pareil trésor? À cet âge, l'amour coûte 30 000 francs par an. J'en ai su le chiffre par votre mari. Et moi, j'aime trop Célestine pour la ruiner. Quand je vous ai vue, à la première soirée que vous nous avez donnée, je n'ai pas compris que ce scélérat de Hulot entretint une Jenny Cadine. Vous aviez l'air d'une impératrice. Vous n'avez pas 30 ans, madame, reprit-il.
Vous me paraissez jeune, vous êtes belle. Ma parole d'honneur, ce jour-là, j'ai été touchée à fond. Je me disais, si je n'avais pas ma Josepha, puisque le père Hulot délaisse sa femme, elle m'irait comme un gant. Ah, pardon, c'est un mot de mon ancien état. Le parfumeur revient de temps en temps, c'est ce qui m'empêche d'aspirer à la députation. Aussi, lorsque j'ai été si lâchement trompée par le baron, car entre vieux drôles comme nous, les maîtresses de nos amis devraient être sacrées, me suis-je juré de lui prendre sa femme. C'est justice, le baron n'aurait rien à dire, et l'impunité nous est acquise. Vous m'avez mise à la porte comme un chien galeux au premier mot que je vous ai touché de l'état de mon cœur. Vous avez redoublé par là mon amour, mon entêtement, si vous voulez, et vous serez à moi.
Et comment ?
Je ne sais pas, mais ce sera. Voyez-vous, madame, un imbécile de parfumeur, retiré, qui n'a qu'une idée en tête, est plus fort qu'un homme d'esprit qui en a des milliers. Je suis toqué de vous, et vous êtes ma vengeance. C'est comme si j'aimais deux fois. Je vous parle à cœur ouvert. En homme résolu. De même que vous me dites, je ne serai pas à vous, je cause froidement avec vous. Enfin, selon le proverbe, je joue carte sur table. Oui, vous serez à moi dans un temps donné. Oh, vous auriez 50 ans, vous seriez encore ma maîtresse. Et ce sera, car moi, j'attends tout de votre mari.
Madame Hulot jeta sur ce bourgeois calculateur un regard si fixe de terreur qu'il la crut devenue folle, et il s'arrêta.
Vous l'avez voulu, vous m'avez couvert de votre mépris, vous m'avez défié, j'ai parlé, dit-il en éprouvant le besoin de justifier la sauvagerie de ses dernières paroles.
Oh, ma fille, ma fille! S'écria la baronne d'une voix de mourante.
Ah, je ne connais rien, reprit Crevel. Le jour où Josepha m'a été prise, j'étais comme une tigresse à qui l'on a enlevé ses petits. Enfin, j'étais comme je vous vois en ce moment. Votre fille, c'est pour moi le moyen de vous obtenir. Oui, j'ai fait manquer le mariage de votre fille. Et vous ne la marierez point sans mon secours. Quelque belle que soit Mademoiselle Hortense, il lui faut une dot.
Hélas, oui, dit la baronne en s'essuyant les yeux.
Eh bien, essayez de demander 10 000 francs au baron, reprit Crevel, qui se remit en position.
Il attendit pendant un moment, comme un acteur qui marque un temps.
S'il les avait, il les donnerait à celle qui remplacera Josepha, dit-il en forçant son médium. Dans la voie où il est, s'arrête-t-on? Il aime d'abord trop les femmes. Il y a en tout un juste milieu, comme a dit notre roi. Et puis la vanité s'en mêle. C'est un bel homme. Il vous mettra sur la paille pour son plaisir. Vous êtes déjà, d'ailleurs, sur le chemin de l'hôpital. Tenez, depuis que je n'ai mis les pieds chez vous, vous n'avez pas pu renouveler le meuble de votre salon. Le mot gêne est vomi par toutes les lézardes de ces étoffes. Quel est le gendre qui ne sortira pas épouvanté des preuves mal déguisées de la plus horrible des misères, celle des gens comme il faut? J'ai été boutiquier, je m'y connais. Il n'y a rien de tel que le coup d'œil du marchand de Paris pour savoir découvrir la richesse réelle et la richesse apparente.
Vous êtes sans le sou, dit-il à voix basse. Cela se voit en tout, même sur l'habit de votre domestique. Voulez-vous que je vous révèle d'affreux mystères qui vous sont cachés?
Monsieur, dit Madame Hulot qui pleurait à mouiller son mouchoir, assez, assez!
Eh bien, mon gendre donne de l'argent à son père, et voilà ce que je voulais vous dire en débutant sur le train de votre fils. Mais je veille aux intérêts de ma fille, soyez tranquille.
Oh, marier ma fille et mourir, dit la malheureuse femme qui perdit la tête.
Eh bien, en voici le moyen, reprit Crevel.
Madame Hulot regarda Crevel avec un air d'espérance qui changea si rapidement sa physionomie que ce seul mouvement aurait dû attendrir Crevel et lui faire abandonner son projet ridicule.
Vous serez belle encore 10 ans, reprit Crevel en position,
ayez des bontés pour moi, et mademoiselle Hortense est mariée. Hulot m'a donné le droit, comme je vous disais, de poser le marché tout crûment, et il ne se fâchera pas. Depuis 3 ans, j'ai fait valoir mes capitaux, car mes fraudaines ont été restreintes. J'ai 300 000 francs de gains en dehors de ma fortune, et ils sont à vous.
Sortez, monsieur, dit madame Hulot. Sortez et ne reparaissez jamais devant moi. Sans la nécessité où vous m'avez mise de savoir le secret de votre lâche conduite dans l'affaire du mariage projeté pour Hortense.
Oui, lâche, reprit-elle à un geste de Crevel. Comment faire peser de pareilles inimités sur une pauvre fille, sur une belle et innocente créature? Sans cette nécessité qui poignait mon cœur de mère, vous ne m'auriez jamais reparlé. Vous ne seriez plus rentré chez moi. 32 ans d'honneur, de loyauté de femme ne périront pas sous les coups de monsieur Crevel.
Ancien parfumeur, successeur de César Birotteau à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré, dit railleusement Crevel, ancien adjoint au maire, capitaine de la garde nationale, chevalier de la Légion d'honneur, absolument comme mon prédécesseur.
Monsieur, reprit la baronne, monsieur Hulot, après 20 ans de constance, a pu se lasser de sa femme. Ceci ne regarde que moi, mais vous voyez, monsieur, qu'il a mis bien du mystère à ses infidélités, car j'ignorais qu'il vous eût succédé dans le cœur de mademoiselle Josépha.
« Oh ! S'écria Crevel, à prix d'or, madame, cette fauvette lui coûte plus de 100 000 francs depuis 2 ans. Ah ah, vous n'êtes pas au bout.
Trêve à tout ceci, monsieur Crevel, je ne renoncerai pas pour vous au bonheur qu'une mère éprouve à pouvoir embrasser ses enfants sans se sentir un remords au cœur, à se voir respectée, aimée par sa famille, et je rendrai mon âme à Dieu sans souillure.
Amen, dit Crevel avec cette amertume diabolique qui se répand sur la figure des gens à prétention quand ils ont échoué de nouveau dans de pareilles entreprises. Vous ne connaissez pas la misère à son dernier épisode, la honte, le déshonneur. J'ai tenté de vous éclairer, je voulais vous sauver, vous et votre fille. Eh bien, vous épellerez la parabole moderne du père prodigue, depuis la première jusqu'à la dernière lettre. Vos larmes et votre fierté me touchent, car voir pleurer une femme qu'on aime, c'est affreux, dit Crevel en s'asseyant. Tout ce que je puis vous promettre, chère Adeline, c'est de ne rien faire contre vous, ni contre votre mari. Mais n'envoyez jamais aux renseignements chez moi. Voilà tout.
Que faire donc ? S'écria madame Hulot.
Jusque-là, la baronne avait soutenu courageusement les triples tortures que cette explication imposait à son cœur, car elle souffrait comme femme, comme mère et comme épouse. En effet, tant que le beau-père de son fils s'était montré rogue et agressif, elle avait trouvé de la force dans la résistance qu'elle opposait à la brutalité du boutiquier. Mais la bonhomie qu'il manifestait au milieu de son exaspération d'amant rebuté, de beau garde national humilié, détendit ses fibres montées à se briser. Elle se tordit les mains, elle fondit en larmes, et elle était dans un tel état d'abattement stupide qu'elle se laissa baiser les mains par Crevel à genoux.
« Mon Dieu ! Que devenir ? » reprit-elle en s'essuyant les yeux. « Une mère peut-elle voir froidement sa fille dépérir sous ses yeux ? Quel sera le sort d'une si magnifique créature, aussi forte de sa vie chaste auprès de sa mère que de sa nature privilégiée ? Par certains jours, elle se promène dans le jardin, triste, sans savoir pourquoi. Je la trouve avec des larmes dans les yeux.
« Elle a 21 ans, » dit Crevel.
« Faut-il la mettre au couvent ?» demanda la baronne. « Car dans de pareilles crises, la religion est souvent impuissante contre la nature, et les filles les plus pieusement élevées perdent la tête. Mais levez-vous donc, monsieur. Ne voyez-vous pas que maintenant tout est fini entre nous, que vous me faites horreur, que vous avez renversé la dernière espérance d'une mère ?»«
Et si je la relevais ? » dit-il.
Madame Hulot regarda Crevel avec une expression délirante qui le toucha, mais il refoula la pitié dans son cœur à cause de ce mot « vous me faites horreur ». La vertu est toujours un peu trop d'une pièce. Elle ignore les nuances et les tempéraments à l'aide desquels on louvoie dans une fausse position.
On ne marie pas aujourd'hui sans dot une fille aussi belle que les mademoiselles Hortense,
reprit Crevel en reprenant son air pincé.
Votre fille est une de ces beautés effrayantes pour les maris. C'est comme un cheval de luxe qui exige trop de soins coûteux pour avoir beaucoup d'acquéreurs. Allez donc à pied avec une pareille femme au bras, tout le monde vous regardera, vous suivra, désirera votre épouse. Ce succès inquiète beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir des amants à tuer, car après tout, on n'en tue jamais qu'un.
Vous ne pouvez, dans la situation où vous êtes, marier votre fille que de trois manières. Par mon secours, vous n'en voulez pas. Et d'un, en trouvant un vieillard de 60 ans, très riche, sans enfants, et qui voudrait en avoir. C'est difficile, mais cela se rencontre. Il y a tant de vieux qui prennent des Josepha, des Jenny Cadine. Pourquoi n'en rencontrerait-on pas un qui ferait la même bêtise légitimement?
Si je n'avais pas ma Célestine et nos deux petits-enfants, j'épouserais Hortense.
Et de deux. La dernière manière est la plus facile. Madame Hulot leva la tête et regarda l'ancien parfumeur avec anxiété. Paris est une ville où tous les gens d'énergie qui poussent comme des sauvageons sur le territoire français se donnent rendez-vous, et il y grouille bien des talents sans feu ni lieu, des courages capables de tout, même de faire fortune. Eh bien, ces garçons-là, votre serviteur en était dans son temps, et il en a connu, qu'avait Du Tillet, qu'avait Popinot il y a 20 ans. Ils pataugeaient tous les deux dans la boutique du papa Birotteau, sans autre capital que l'envie de parvenir, qui, selon moi, vaut le plus beau capital. On mange des capitaux et l'on ne se mange pas le moral. Qu'avais-je, moi? L'envie de parvenir, du courage. Du Tillet est l'égal aujourd'hui des plus grands personnages. Le petit Popinot, le plus riche droguiste de la rue des Lombards, est devenu député, le voilà ministre. Eh bien, l'un de ces condottieries, comme on dit, de la commandite, de la plume ou de la brosse, est le seul être à Paris capable d'épouser une belle fille sans le sou, car ils ont tous les genres de courage. Monsieur Popinot a épousé Mademoiselle Birotteau sans espérer un liard de dot. Ces gens-là sont fous. Ils croient à l'amour, comme ils croient à leur fortune et à leurs facultés. Cherchez un homme d'énergie qui devienne amoureux de votre fille, et il l'épousera sans regarder au présent. Vous m'avouerez que, pour un ennemi, je ne manque pas de générosité, car ce conseil est contre moi.
Ah, monsieur Crevel, si vous vouliez être mon ami, quittez vos idées ridicules.
Ridicules, madame. Ne vous démolissez pas ainsi. Regardez-vous. Je vous aime et vous viendrez à moi. Je veux dire un jour à Hulot, tu m'as pris Josepha, j'ai ta femme. C'est la vieille loi du talion, et je poursuivrai l'accomplissement de mon projet, à moins que vous ne deveniez excessivement laide. Je réussirai. Voici pourquoi, dit-il en se mettant en position et regardant Madame Hulot.
Vous ne rencontrerez ni un vieillard, ni un jeune homme amoureux, reprit-il après une pause, parce que vous aimez trop votre fille pour la livrer aux manœuvres d'un vieux libertin, et que vous ne vous résignerez pas, vous, baronne Hulot, sœur du vieux lieutenant-général qui commandait les vieux grenadiers de la vieille garde, à prendre l'homme d'énergie là où il sera, car il peut se trouver simple ouvrier, comme tel millionnaire d'aujourd'hui se trouvait simple mécanicien il y a 10 ans, simple conducteur de travaux, simple contremaître de fabrique. Et alors, en voyant votre fille, poussée par ses 20 ans, capable de vous déshonorer, vous vous direz « Il vaut mieux que ce soit moi qui me déshonore, et si M. Crevel veut me garder le secret, je vais gagner la dot de ma fille, 200 000 francs, pour 10 ans d'attachement à cet ancien marchand de gants, le père Crevel. Je vous ennuie, et ce que je dis est profondément immoral, n'est-ce pas? Mais si vous étiez mordu par une passion irrésistible, vous vous feriez pour me céder des raisonnements comme s'en font les femmes qui aiment. Eh bien, l'intérêt d'Hortense vous les mettra dans le cœur, ces capitulations de conscience. »
Il reste à Hortense un oncle.
Qui, le père Fischer, il arrange ses affaires, et par la faute du baron encore, dont le râteau passe sur toutes les caisses qui sont à sa portée.
Le comte Hulot.
Oh, votre mari, madame, a déjà fricassé les économies du vieux lieutenant-général. Il en a meublé la maison de sa cantatrice. Voyons, me laisserez-vous partir sans espérance?
Adieu, monsieur. On guérit facilement d'une passion pour une femme de mon âge, et vous en prendrez des idées chrétiennes. Dieu protège les malheureux.
La baronne se leva pour forcer le capitaine à la retraite, et elle le repoussa dans le grand salon.
Est-ce au milieu de pareilles guenilles que devrait vivre la belle madame Hulot?
Dit-il. Et il montrait une vieille lampe, un lustre dédoré, les cordes du tapis, enfin les haillons de l'opulence, qui faisaient de ce grand salon blanc, rouge et or un cadavre des fêtes impériales.
La vertu, monsieur, reluit sur tout cela. Je n'ai pas envie de devoir un magnifique mobilier en faisant de cette beauté que vous me prêtez des pièges à loups, des chatières à pièces de 100 sous.
Le capitaine se mordit les lèvres en reconnaissant les expressions par lesquelles il venait de flétrir l'avidité de Josepha.
« Et pour qui cette persévérance ? »
demanda-t-il. En ce moment, la baronne avait éconduit l'ancien parfumeur jusqu'à la porte.
« Pour un libertin ! » ajouta-t-il en faisant une moue d'homme vertueux et millionnaire.
« Si vous aviez raison, monsieur, ma Constance aurait alors quelque mérite. Voilà tout. »
Elle laissa le capitaine après l'avoir salué comme on salue pour se débarrasser d'un importun et se retourna trop lestement pour le voir une dernière fois en position. Elle alla rouvrir les portes qu'elle avait fermées et ne put remarquer le geste menaçant par lequel Crevel lui dit adieu. Elle marchait fièrement, noblement, comme une martyre au Colisée. Elle avait néanmoins épuisé ses forces, car elle se laissa tomber sur le divan de son boudoir bleu, comme une femme près de se trouver mal, et elle resta les yeux attachés sur le kiosque en ruine où sa fille babillait avec la cousine bête.